Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On sait bien qu'un film, c'est, mettons, 1h30 d'images, en noir et blanc, ou en couleur, images muettes, parlantes, sonore. Et c'est aussi et avant tout l'impression que l'on éprouve à la projection de ce film. Et immédiatement après, le travail que le temps effectue sur cette impression. Bref, la mémoire commence, le film se rejoue dans notre cerveau. Le titre du film aussi n'est pas neutre. Après tout, dès que ce titre comporte le mot « nuit », n'imagine-t-on pas tout le film se déroulant en pleine nuit ? Et comment le film « La nuit du chasseur » échapperait-il à cette étrange reconstruction de l'esprit. On sait, quoi qu'il en soit, que le film a pu nous terroriser. Le 27 janvier 1987, Colette Fellouz proposait, dans les mardis du cinéma, Charles Laughton, La nuit du chasseur.
Harry Powell, for the theft of that touring car, you will spend 30 days in the Moundsville Penitentiary.
The preacher, Harry Powell.
A car thief, picked up where you were. A man of God, Harry Powell.
Quand on parle de la nuit du chasseur, il suffit de dire oh, la nuit du chasseur. Et puis on se regarde, on sourit, les yeux deviennent vraiment émerveillés comme des yeux d'enfant devant l'arbre de Noël ou devant une espèce de merveille comme ça. Et puis on se tait et puis on dit oh, quel film. Et puis une fois qu'on a dit ça, on a tout dit en fait.
Sleep tight and don't let the bed bugs bite.
Night, Mr. Nee, don't let the bed bugs bite.
Pour moi, c'est le film. Pour moi, si on me demande de parler d'un film, je citerai volontiers celui-là parce que c'est un film qui contient tous les autres. Je dirais que c'est un merveilleux conte de fées Carabosse. C'est un film qu'on peut lire, qu'on peut voir à tous les niveaux.
Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? The story of good and evil. H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man.
C'est vraiment un vrai cauchemar, ce film. C'est horrible. Vraiment atroce. Mais en même temps, c'est beau comme histoire.
King hang hum, see what the hangman done. King hang hang hang, king hang hum, see what the hangman done. Hang hang hang, see the robber swing.
C'est un film poétique, c'est un film insolite, c'est un film onirique, c'est un film surréaliste, c'est une parabole philosophique, c'est un film social, c'est un film freudien, c'est un film sur l'univers de l'enfance, c'est un thriller, c'est un film allégorique, mystique, initiatique, érotique, fantasmatique, un suspense, un film noir, une comédie dramatique au choix. Donc vous voyez, c'est un film dont on ne se lasse pas parce que il est jamais le même, il est toujours différent et selon votre humeur, vous y trouvez ce que vous avez envie d'y trouver. Donc c'est le film idéal pour tous les spectateurs.
La nuit du chasseur, 1955, un film de Charles Laughton. Une émission de Colette Fellouz.
You swore, Pearl.
John, don't.
You promised Dad you wouldn't tell.
I love Mr. Powell lots and lots, John.
Avec Jean-Claude Romer, Michel Nuritzani, André Labarthe, Raymond Bellour, Laurence Gavron et Marianne.
Je me souviens évidemment d'impression, c'est-à-dire de Robert Mitchum chevauchant avec ses deux mains où c'est marqué Love and Hate. Je me souviens de ces deux petits enfants dont les parents meurent au début. Je crois en ayant caché un trésor ou de l'argent quelque part, peut-être dans une poupée, je ne suis pas sûre. Et je me souviens, bon, qu'évidemment, Robert Mitchum veut s'emparer de cet argent et que c'est un pasteur, qu'il est très méchant et qu'il terrorise comme ça les enfants. Et je me souviens pas très bien comment il épouse Shelley Winters, qui je crois, elle, a la garde des enfants. Je me souviens pas très bien, elle, comment elle arrive, ni lui, comment il la rencontre. Vous voyez, c'est, enfin...
J'oublie toujours le début du film. J'oublie que le vrai père a été assassiné. Je confonds l'assassin du père avec le père. Je ne suis pas seule dans ce cas. Beaucoup de gens m'ont dit faire la même erreur, comme si ce père n'avait de réalité que du moment qu'il a été tué, et que ce soit de celui qui lui a donné cette mort de la vie, duquel il participe plus encore que de la sienne propre. Dans la nuit du chasseur, je ne vois pas la vie créée, je vois la mort créée. Je ne vois pas le père avant sa consécration par le meurtre opéré sur sa personne. J'ai vu 4 fois le film, et je fais toujours cette erreur. Je n'arrive pas à voir le père vivant. Après qu'il ait été tué, je vois à sa place le criminel, sa place occupée par lui. C'est sur cette erreur que j'ai toujours vu et construit le film de Charlton. Marguerite Duras.
Now go look at yourself yonder in that mirror. Look at yourself.
Par ailleurs, j'ai comme ça des petites images dont je me souviens. Effectivement, il y a une image noire et blanc, très contrastée, comme ça, très très belle, très dense. Et je me souviens, je crois que c'est avant la nuit de noces, quand elle se met sa chemise de nuit, qu'elle se regarde dans la glace, et que je ne sais même plus ce que lui fait. Il arrive avec un couteau, enfin, je ne sais plus, mais c'est tout à fait...
Laurence Gavron.
What do you see, girl? You see the body of a woman, the temple of creation and motherhood. You see the flesh of Eve that man since Adam has profaned. That body was meant for begetting children.
Et là, c'est surtout un climat qui reste de toute façon. C'est d'une part Robert Mitchum complètement, enfin son visage, son jeu, son rôle. Et c'est un mélange de quelque chose de très très angoissant, effectivement, de fascinant en même temps, dont tout peut être hypnotique, qui est rendu aussi par la photographie d'ailleurs, enfin qui est rendu par tous ces éléments. Je crois que c'est d'autant plus angoissant qu'il s'agit de petits enfants. Enfin, donc évidemment, c'est... C'est pire.
Lord, I am tired. Sometimes I wonder if you really understand. Not that you mind the killings. Your book is full of killings. But there are things you do hate, Lord. Perfume-smelling things, lacy things, things with curly hair.
Il n'était pas homme à se souvenir des faits, des dates, des lieux, des noms. Et pourtant des fragments ressurgissaient avec des ressemblances frappantes. Éclats brisés d'heures oubliées, de noms perdus, de visages morts. Tout cela ressurgissait. Et dès cet instant, il savait ce qu'il avait éprouvé à cette heure, devant ce nom, en ce lieu. Et que Dieu lui avait parlé clairement et lui avait dicté ce qu'il devait faire. Le couteau sous la couverture de laine, l'épée de Jéhovah sous ses doigts irrités. Dieu lui envoyait les gens. Dieu lui disait quoi faire. Et c'était toujours une veuve que Dieu lui amenait. Une veuve avec un petit magot enfermé dans le sucrier de la salle à manger. Et un petit peu plus sans doute à la banque du comté.
Too many of them. You can't kill the world.
You driving a touring car with a Moundsville license?
Ah, little lad, you're staring at my fingers. Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man.
Lorsque le pasteur arrive dans la petite communauté,
Jean-Claude Romer,
il se présente comme un homme de Dieu et il a l'habitude de pratiquer une parabole sur le bien, sur la lutte du bien et du mal. Et à cet effet, il a sur la main droite tatoué Love, amour, L-O-V-E, sur chacun des doigts de sa main. Et il a sur la main gauche tatoué Hate, c'est-à-dire la haine, H-A-T-E, sur les quatre autres doigts de la main gauche. Et il se saisit la main gauche de la main droite et il fait semblant de lutter, la main droite terrassant la main gauche. Non, c'est la main gauche qui a le dessus ou le dessous. Et lui-même commente de sa belle voix ce combat de catch, en somme, entre le bien et le mal. Et des gens s'exclament, mais c'est un homme de Dieu. Seul le petit garçon n'est pas dupe. Et dit, man of God, ah! Et il voit que, décidément, personne n'est de son côté.
John, mind your manners, take that look off your face, act nice.
Why, you don't mean no impudence, do you, boy? Do you, boy? Ah, many's the time poor brother Ben told me about these youngins.
What'd he tell you?
Why, he told me what fine little lambs you and your sister both was.
Is that all?
Why, no, boy. He told me lots and lots of things. Nice things, boy.
Je me souviens, j'ai lu un livre, je ne sais plus du tout si c'était de Biédou ou de Nourricier, vous me direz, c'est pas la même chose, mais il y avait en exergue, comme ça, un petit mot qui disait, c'était marqué... Ah, Mozart! Et bon, c'était rien, mais tout était dit. C'est vrai que quand on écoute Mozart, on se dit Ah, Mozart! Qu'est-ce qui fait que Mozart, c'est Ah, Mozart?
Michel Nuritzani.
Il y a comme ça un certain nombre de choses, et curieusement, on se retrouve avec les mêmes gens. C'est-à-dire, quand on parle de la nuit du chasseur, c'est des gens à qui on peut parler de Mozart. Il y a une espèce, non seulement de complicité, mais une espèce, je crois. Je vais employer le mot de franc-maçonnerie, mais disons, effectivement, on se reconnaît. Je me dis, c'est peut-être une espèce d'angélisme, c'est peut-être... Mais non, je crois que c'est quelque chose qui est d'une simplicité totale.
Leaning, leaning, safe and secure from all alarm. Leaning, leaning.
Le chant, j'avais oublié qu'il chantait comme ça. Ça vient régulièrement, je crois. C'est toujours la
oui,
même chanson.
Oui, c'est très important, oui.
Oui. Oui, absolument.
C'est par le chant qu'il les menace, qui menace les petits enfants.
Oui, 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 ça me revient.
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Children, children.
Bon, je crois que ça a à voir avec l'enfance. Il y a une part d'émerveillement, il y a quelque chose qui est du domaine, du rêve, de tout ce qu'on peut avoir vécu dans notre adolescence. Alors effectivement, il y a la présence de Mitchum, qui est une espèce d'ogre comme ça. Il y a du conte de fées hein, dans oui. Ce film. Mais un conte de fées un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a du sadisme, il y a une espèce de psychanalyse à la noix, comme il y a dans les contes de fées. Mais tout ça, c'est intégré dans le film. C'est complètement digéré. Et ce dont on se souvient, c'est pas du tout ce côté-là, mais ce sont des moments. Et bon, le moment où Mitchum passe comme ça sur la crête de la forêt, qui est une espèce de chose noire, qui est une forêt de contes de fées complètement effrayante. Et puis, il y a cette espèce d'ogre comme ça qui passe à cheval. Et puis, le petit enfant qui dit « Mais il ne dort donc jamais ?» Et c'est complètement une parole de conte de fées, mais un conte de fées qui est vraiment pour les adultes. Et les adultes, je crois, qui ont gardé une part d'enfance. Mais quand on a dit ça, on n'a pas non plus tout dit. C'est beaucoup plus riche que tout ce qu'on peut dire. Et j'ai retrouvé ça aussi dans un livre de Stifter, qui est un écrivain allemand du 19e siècle. Et il y a un de ses livres qui s'appelle « L'homme sans postérité ». Il y a quelque chose du même ordre. Alors qu'est-ce que c'est que ce même ordre? Je crois que ça ressortit à une espèce de simplicité totale. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une espèce d'évidence. Mais c'est vraiment rien. C'est-à-dire que ce sont des gens là qui marchent dans des prairies, qui, au détour d'un chemin, tout d'un coup, se disent « Ah, que c'est beau le paysage !» Mais c'est une simplicité, mais on a rarement fait quelque chose aussi simple. Et c'est quelqu'un qui gomme tous les effets compliqués.
Cinéma, juillet 82, interview de Robert Mitchum par Philippe Garnier et Claude Ventura.
Charles Laughton's the best director I've ever worked with. He should have been doing that all the time.
Why didn't he do it?
He died.
Do you think it's an important picture for you? I mean...
Yes, I think so, yes. Because as much as he tried to, you know, minimize the horror of it, it was still there. Because he put on little owls and all that shit, you know.
C'est mon acteur préféré, je crois que c'est vraiment un de mes acteurs préférés. C'est un rôle très très spécial pour lui, enfin c'est un rôle qui, comme il en a peu eu. Je sais que lui, c'est son film, je crois, préféré. Il l'a dit et redit. Je crois qu'il a dit que c'était vraiment une des seules personnes qui avait su le diriger, enfin qui avait su bien parler avec lui, c'était Charlton. Donc on est d'autant plus attentif à ça. Enfin, c'est vrai que c'est un peu un film mythique, quoi. C'est pour ça qu'en même temps on n'ose pas trop en parler. On se dit que tout a été dit. Je sais pas, mais c'est parce que c'est un film qui ressemble à aucun autre, qui est très 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 attachant.
Well now, what's it to be, Lord? Another widow? How many has it been? Six? Twelve? I just remember. You say the word, Lord. I'm on my way.
J'ai eu le privilège, la chance de pouvoir suivre la carrière, tout au moins en France, du film. J'étais présent à la première présentation du film quand il est sorti en exclusivité aux Champs-Élysées. Ça fait 30 ans, d'ailleurs. Oui. Et depuis, j'ai pratiquement suivi toutes les projections du film, que ce soit à l'époque, c'était très difficile de pouvoir visionner ce film, parce que quand il est sorti, il est resté 2 semaines en exclusivité, ça a été une catastrophe financière. Donc il a été très très vite retiré de l'affiche, et ensuite, pour pouvoir le détecter quelque part, il fallait vraiment être très vigilant. Et je me souviens que c'est grâce à l'époque, à une petite salle où se réunissaient tous les cinéphiles, qui s'appelait le Studio Parnasse, qui était dirigé par Monsieur Jean-Louis Chéret, où il y avait le mardi soir, il y avait des grandes séances de jeux de questions cinéma où assistaient tous les futurs réalisateurs de la nouvelle vague des cahiers du cinéma, c'est-à-dire il y avait Godard, il y avait Chabrol, il y avait Truffaut, etc. Et c'est lui qui a eu l'initiative, parce qu'il adorait le film, de le reprendre à plusieurs reprises dans sa petite salle. Donc j'ai eu l'occasion de voir le film dans cette salle, avant de le voir enterré définitivement pendant des années, on n'a pas pu le voir. C'était un film maudit qui n'attirait pas les foules et les distributeurs ne tenaient pas à le mettre à leur programme.
You're bleeding, Dad.
Listen to me, John. This money here, we gotta hide it before they get to me. It's close to $10,000. Where? Under a rock in the smokehouse? No. The bricks in the grape arbor? No, they dig for it. Sure.
Oh, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois parce que travaillant, comme vous savez, à la télévision, j'ai eu l'occasion de le visionner sur une table de montage, d'enregistrer le son. Et même mieux que ça, puisque à l'époque, avec mon ami Michel Kahn, nous avions fondé une revue chez Eric Losfeld au Terrain Vague qui s'appelait Midi Minuit Fantastique, en 1962 pour être précis. Et nous avons envisagé un moment de faire un numéro spécial sur la nuit du chasseur, tellement nous étions amoureux de ce film. Et nous avions battu le rappel de tous nos amis pour qu'ils nous envoient des textes à propos de la nuit du chasseur. Et à cette occasion, j'ai une surprise pour vous. J'ai un texte inédit de François Truffaut qui nous parle de la nuit du chasseur. Alors voilà son texte, tel qu'il nous l'a envoyé. Et comme le numéro, malheureusement, n'a jamais pu être fait, donc j'ai conservé le texte. La nuit du chasseur est un conte d'humour noir en même temps qu'une parabole sur la relativité du bien et du mal. Tous les personnages font preuve de bonté, même les méchants. Même Robert Mitchum, le prêtre criminel qui occupe le centre du récit. C'est un film d'une grande richesse d'invention qui ressemble à un fait divers horrifiant raconté par des petits enfants. La mise en scène oscille du trottoir nordique au trottoir allemand, s'accroche au passage au bec de gaz expressionniste en oubliant de traverser dans les clous plantés par Griffith. Charles Laughton ne craint pas de brûler quelques feux rouges et de renverser quelques policemen dans ce film unique qui fait aimer le cinéma de recherche quand il cherche et le cinéma de trouvailles quand il trouve. François Truffaut.
Il était là, parfois dans son sommeil. Il pleurait, disant qu'il était si là. C'était d'assassiner qui le rendait si là. Parfois, il se demandait si vraiment Dieu comprenait. Non pas que Dieu s'occupât des meurtres. Bon, son livre était plein de meurtres. Mais il existait, oui, des choses que Dieu haïssait vraiment. Des choses sentant le parfum, des choses portant dentelle, des choses à cheveux bouclés des prostituées. Prêcheur pensait à elle, et ses mains la nuit allaient à tâtons profondément sous les couvertures, jusqu'à ce que les doigts signifiant amour se referment autour du manche de corne du couteau, et qu'une fureur brûlante, éclatante, lui élève l'âme. Il était l'ange noir, porteur de l'épée du dieu vengeur.
C'est vrai qu'on n'oublie pas ces images de Mitchum. Hein?
Ah oui, oui. Oui, parce que c'est ça aussi la force du film, c'est que les images, elles ont une valeur d'archétype comme ça.
André Labarthe.
On a l'impression que ces images-là ont un sens depuis tout le temps.
Oui, qu'on les connaissait déjà.
Qu'on les connaissait déjà. Et bien qu'elles soient parfaitement originales dans leur forme.
Et sa relation à Dieu?
Oui, elle est très, très claire et ambiguë en même temps. C'est-à-dire que d'un côté... ça serait trop simple de dire qu'il se sert de Dieu pour arriver à ses fins. C'est-à-dire qu'il est le comédien qui a bien appris la Bible pour arriver à ses fins. Parce qu'en même temps, il est la victime du monde qu'il joue. Il a choisi de jouer dans une comédie religieuse. Et puis... quelque part, il y a du sérieux qui s'y met, c'est ce qui fait qu'il meurt, finalement. C'est ce qui fait que ça finit mal.
Et dans le roman, la relation avec Dieu est beaucoup plus appuyée. On a l'impression qu'il a vraiment une mission, que Dieu l'a envoyé sur Terre pour tuer ses femmes.
Oui, il y a un aspect plus... Le roman est plus saxon, plus... Enfin, disons, plus dans le droit fil... de la littérature qui fait que, par exemple, la Bible est un élément de la vie quotidienne important et toujours présent, mais en même temps, qui fait que le mal, par exemple, qui est une espèce d'entité, a en réalité un rôle précis et quotidien. On peut voir ça encore aux États-Unis aujourd'hui, dans certains États... qui ne sont pas ni New York, ni Los Angeles. L'idée que trimballe la Bible, hein, l'opposition, le mal, le bien, enfin, le discours, disons, de Mitchum dans le film, c'est quelque chose de très vivant. Enfin, le livre, on le sent plutôt comme background du film. Mais le film ne peut pas avoir la même épaisseur, il joue sur d'autres choses. Hein. Il joue plus sur des oppositions, des choses comme ça. Alors que le livre joue beaucoup plus sur le, comment dire, d'essayer de trouver des passages entre les deux oppositions, le mal et le bien, de justifier l'utilisation du mal, pourquoi il faut agir de façon violente, etc. Tandis que dans le film, et c'est ça qui est merveilleux dans le film, c'est que tout à coup, il y a des stéréotypes cinématographiques qui deviennent des archétypes religieux. Bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve. Waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
Don't he have the grandest singing voice? John, Pearl, run along the plain too. Where? Down by the river, my goodness.
En parcourant la campagne, il prêchait. Il propageait le bruit qu'il était en ville. Et qu'il était invité à prêcher dans un temple. et bientôt il annonçait une grande fête religieuse en plein air près de la rivière, pour la dernière semaine d'août. Cela ne lui rapportait jamais beaucoup d'argent. Mais cela l'aidait à répandre la gloire de Dieu. Dieu s'occupait de l'argent. Dieu lui amenait des veuves. Son nom était Harry Powell, mais tout le monde l'appelait prêcheur.
Et ce faux prêtre alors ?
C'est lui le personnage central. Bah, ça peut, on peut dire que c'est le mal, c'est Satan. Et que le personnage du bien, on va y venir, c'est Lillian Gish, c'est ma mère Loi. C'est elle qui recueille les enfants perdus. Quand les mères ont fauté, c'est elle qui recueille les petits. Et elle veille à leur sécurité et elle les garde sous son aile protectrice. Alors que Satan rôde, que le mal est là, et qu'il grogne, qu'il gémit et qu'il cherche à s'approprier les malheureux enfants innocents. Et comme on le dit dans le film, les malheureux enfants, ils doivent en supporter, ils ont bien du mal à survivre. Et on ne voit pas des personnages exemplaires à ce point-là, même celui de Mitchum, celui de Shelley Winters aussi, qui est extraordinaire. Ce film ne peut pas vieillir parce que déjà à l'époque, en 55, quand il a été réalisé, il était anachronique. C'est une espèce de chose folle, de survivance d'un cinéma qui, justement, on pense à Griffiths, qui aurait continué à faire des films après le passage du muet au parlant. Et puis, ce qui explique l'échec du film, puisque ce film modeste en noir et blanc est sorti au moment de l'explosion du cinémascope. À la même époque, il y avait des films en scope, il y avait La Terre des Pharaons, il y avait La Tunique, il y avait des choses en couleur, super écran, et lui, il arrivait comme ça. Et les gens ne savaient pas quelle étiquette lui mettre. Est-ce que c'est un film pour enfants, puisqu'il y a des enfants? Mais pas du tout. C'est un film d'une violence extrême. Il a été interdit au moins de 16 ans quand il est sorti. Donc les enfants ne pouvaient pas le voir. Mais les adultes disaient, c'est un film pour les enfants. C'est un conte de fées. Alors, il n'a pas trouvé son public. Et il l'a trouvé par la suite, peu à peu. Il s'est installé parce que des gens l'ont défendu. Mais il n'est pas toujours vraiment admis. C'est un grand film maudit, c'est un grand film méconnu, et puis pourquoi pas.
Tell me a story, John.
Well, once upon a time, there's a rich king who had himself a son and a daughter. They all lived in a castle over in Africa. And one day, this king got taken away by some bad men. And before he got took off, he told his son to kill anyone who tried to steal his gold. And before long, the bad men came back and...
J'ai aimé surtout que... Les enfants, ils ont gardé un secret comme ça et qui pensaient pas du tout à l'argent, à la valeur de l'argent, mais qui pensaient au secret, à leur père, qui pensaient vraiment à leur père et qui s'est gardé l'argent, gardé le secret. Même à un moment, on le prouve que l'argent, ça n'a pas du tout de valeur pour eux. C'est quand la petite fait des découpages dans les billets. Ça n'a pas du tout de rapport avec la valeur.
They make soup out of them, but I wouldn't know how to go about getting them open.
Les enfants sont très petits, et la nature est immense. Ils descendent des routes, puis un fleuve. Des routes entre les rizières, des remblais, des talus. Ils descendent le Nil, le Mékong. Ils parcourent des déserts, des voies droites entre les déserts. Ils descendent tous. Le père criminel avec son cheval et son arme, les petits enfants nus, dénudés par l'enfance même. Autour d'eux, le sud d'un continent, d'un pays dont on ne connaît pas le nom. Tout est plat, lagunaire, facile à couvrir. On voit bien devant soi, mais l'avancée n'a pas de terme. c'est un développement incessant, régulier. Poursuivis par le criminel, les enfants ne peuvent qu'aller toujours plus avant. La sollicitude du criminel n'a d'égal que la platitude du lieu. Continue, sempiternelle. Elle pourrait durer 20 ans sans que l'égalité de sa démarche se modifie. Le criminel veut l'argent des enfants qui est enfermé dans la poupée en chiffon de la petite fille et il appelle les enfants en sifflant un négro spirituel, Moses, qui appelle la compassion de Dieu. Suivant la distance où ils se trouvent les uns des autres, Moses indiquera aux enfants la distance de la mort. Le chant sera le signal soit d'un répit s'il est loin, soit d'une fuite quand il se rapprochera.
C'est un des rares films qui ne me déçoivent pas lorsque je le revois, en tout cas. Maintenant, je crois qu'il est à peu près universellement reçu. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, parce que à l'époque, je faisais partie donc, de l'équipe des Cahiers du cinéma. Et les cahiers étaient très partagés déjà sur ce film. Et effectivement, au cahier, à cette époque-là, il y avait une tendance... qui voulait que le cinéma soit quelque chose qui refuse justement l'expressionnisme et qui soit, disons, l'école de la transparence. Hein, le grand cinéma américain, les comédies américaines, etc. Et le film de Charlton était tout le contraire. C'est-à-dire, c'était un film, on avait l'impression d'un film allemand presque.
C'est vrai, oui.
Et moi, je dois dire que c'est ce qui m'a plu. Et c'est ce qui m'a plu, et je trouvais en plus que ça s'inscrivait très bien dans l'histoire du cinéma américain, bien qu'un peu dans ses marges, dans la mesure où le cinéma américain venait beaucoup de l'Europe centrale, de l'Allemagne, et finalement de l'Europe. Et je sais que ce qui m'avait, à l'époque, j'étais en pleine lecture de Freud, tout ça, enfin j'ai retrouvé mes petits, quoi.
On a l'impression d'être au pays de l'inconscient.
Oui, c'est ça. C'est à la fois Alice au pays des merveilles, mais si le pays des merveilles était un cauchemar, quoi. C'est l'autre côté du miroir. Si on peut dire que les deux mots écrits sur les phalanges de chacune des mains, d'un côté hate et de l'autre côté love, s'opposent comme les deux côtés du miroir. Ça inverse les choses. C'était un peu le film de l'inversion, c'est ce qui me plaisait. Oui. C'est le film de la subversion aussi, où les valeurs sont subverties ou inversées, dans une espèce de manichéisme qui est très acceptable, je veux dire, en tout cas qui est sûrement encore plus acceptable pour le lecteur de la Bible. Tout peut être interprété comme des signes freudiens, un petit peu, d'une aventure qui est ancestrale. Hein. Moi, c'est ce qui m'avait frappé, ça. Et je sais que même j'avais interprété la fuite des enfants. Je me souviens d'une chose. J'avais fait donc une critique dans les cahiers du cinéma pour défendre le film. Et je disais à un moment donné que lorsque les enfants s'enfuient, ils s'enfuient en bateau, hein, sur le bord de la rivière, et ils se laissent descendre vers la mer, puisqu'en suivant le courant. C'est-à-dire qu'ils retournaient vers leur mère, dans le sens du mot. Et puis, après coup, je ne sais plus qui m'a dit, qu'ils ne descendent pas la rivière du tout, ils la remontent.
Ah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle descend.
Et je crois que c'est Jean-Claude Romer, justement, qui m'avait demandé de reproduire cette critique dans un numéro spécial. Et je lui avais dit, je vais faire un petit rectificatif. Et puis, tout compte fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que même s'il remonte la rivière, il remonte vers la source. Donc le sens psychanalytique, disons, est le même.
Et
peut-être
façon.
Même plus fort, c'est-à-dire qu'il remonte vers la source, vers la mer.
Il y a une espèce de descente de la rivière par les deux enfants qui sont dans une barque. Cette barque, c'est tout ce qu'on veut. C'est la barque de Noé, ça peut être... je sais pas, c'est le fleuve de la vie. Enfin, il y a plein de symboles comme ça, mais très gros. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas du tout à être intelligent. C'est le contraire. Il est dans le plus, je ne veux pas dire le banal, parce que c'est jamais banal. Il est dans le plus simple, dans le plus commun, dans tout ce fond commun qu'on a avec nous. C'est-à-dire, le fleuve, c'est le fleuve de la vie. Hein, c'est la Moldava, c'est le Smetana, c'est le fleuve de la vie. Alors, il descend le fleuve de la vie. Et tout le long de ce fleuve de la vie, il y a toutes les espèces animales qui contemplent ou qui protègent, cette espèce de frêle esquive avec ses deux enfants perdus et l'ogre qui les contemple, comme ça. Et il y a une espèce de chanson qui est magnifique, hein, qui résonne. Mais qui résonne pas dans la nature, on a l'impression que c'est dans une pièce que ça résonne. Mmh. C'est complètement déréalisé. Moi, ce qui me plaît aussi dans ce film, c'est pas un film réaliste du tout. Et bon, j'ai une espèce d'horreur du réalisme, moi. Et là, c'est vraiment un film absolument pas réaliste. C'est en noir et blanc, une espèce de photographie magnifique, des éclairages qui sont complètement antinaturalistes. Et notamment, il y a ce petit lapin, là, comme ça. Il y a un lapin qui est filmé, mais vraiment, c'est plus que du studio. Enfin, c'est... À la limite, on le voit qu'il est attaché et qu'il est là. Mais c'est pas un petit lapin, c'est le lapin. C'est le lapin en soi, c'est l'espèce d'image du lapin. Et puis il y a aussi une araignée, enfin il y a toutes sortes de choses. Et puis ces enfants descendent le fleuve, ils s'endorment.
Oui, ils dorment sur leur barque comme ça, ils sont très tranquilles. Mais en fait, la barque c'est sur le fleuve comme ça, c'est leur seul endroit de refuge, quoi. Seulement, moi, je crois que leur mère, elle est morte dans l'eau. Alors, c'est comme s'ils étaient à côté de leur mère. Et en même temps, ils ont toujours le secret de l'argent de leur père. Donc, ils sont à côté de leur mère et de leur père. Donc, ils sont tous ensemble et peut-être... Et je crois qu'ils sont heureux comme ça. Et ça leur rappelle un peu leurs parents.
Two pretty children, but one night these two pretty children flew away, into the sky, into the
sûrement citer L'autre amant. C'est évident dans la mesure où c'est un film qui a aussi un bestiaire comme chez L'autre amant. En particulier lorsque les enfants descendent ou remontent la rivière, il y a des plans qui sont vus de la rive. On voit le bateau en profondeur de champ et en premier plan, on voit par exemple un crapaud. Enfin, différents animaux comme ça, très présents et filmés de façon fantastique. Parce que je me demande d'ailleurs comment ça a pu être filmé. On a l'impression d'un collage. Un collage surréaliste un petit peu. Et je suis sûr qu'on pourrait faire ce que Bachelard a fait pour L'autre amant, on pourrait le faire pour La nuit des chasseurs. Bon, il y a le bestiaire, mais il y a aussi tous les éléments. La nature est toujours présente. Hein, on traverse la campagne, l'eau. Je veux dire, la disparition de Shelley Winters, par exemple. Il y a un plan magnifique où on voit... Il y a une version, d'ailleurs, où ce plan avait été supprimé.
Parce qu'il était trop violent.
Ben, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a eu une version à l'époque de la sortie du film où ce plan n'était plus là. Et c'est le plan où on voit Shelley Winters au volant de sa voiture, mais sous l'eau, avec les cheveux qui se confondent avec les algues, tout ça. Et tout à coup, il y a une sorte de symbiose qui se fait entre la nature, l'eau, et le personnage de Shelley Winters. C'est-à-dire que l'aspect mer-mer là, joue à tous les niveaux. Là.
Cessèrent de dormir, de s'aimer, de chanter de vieux airs tendres, et prêtèrent l'oreille. Ils écoutaient quelque chose d'aussi vieux et d'aussi sombre que ce qui repose au fond de la rivière, d'aussi vieux que le mal lui-même. Un hurlement régulier, déchirées qui venaient vers eux au fil de la rivière, selon un rythme effrayant. Cela aurait pu être le fantôme du vieux Mason lui-même, ou de Massipa Harpe, ou de Gertie le renégat, à en juger par ses accents infernaux. Et les gens de la rivière demeurèrent silencieux, attendant que cela s'arrête, attendant que le courant de la rivière l'efface de nouveau dans les ténèbres et accorde l'heure au bruit dont il convient que la nuit soit emplie, le coassement des grenouilles vertes, le bond soudain d'un poisson, le cri aigu d'un lièvre dans le verger, sous l'attaque d'une belette vorace.
Hush, my little one. Morning soon shall light your pillow. Bird will sing in yonder willow. Hush, my little one, hush.
Are we going home now, John? De la voix de cet homme qui les poursuit toujours, ils se disent que c'est pas possible. Il les poursuit toujours, il ne dort jamais.
Don't never sleep.
Il y a un autre aspect, c'est l'aspect ce que chante. Par exemple, Mitchum, lorsqu'il est sur son cheval et qu'il va à la poursuite des enfants, à la poursuite tout à fait tranquille, flegmatique, comme ça, il sait que de toute façon, il va arriver à son but. Il a tout le temps devant lui, il a Dieu avec lui et il peut y aller. Et là, à ce moment-là, il chantonne cette chanson qui est assez obsédante. Et ça, ça rejoint toute une tradition anglaise, de nursery rythmes, des choses comme ça. C'est une façon d'essayer de les attirer, les enfants, de les hypnotiser. On a l'impression que les deux armes de Mitchum, c'est ça, c'est l'hypnose ou la violence. Il a un côté cyclotimique comme ça, et qui passe sans transition de l'usage d'une arme à une autre.
Oui, en fait, son regard et sa voix sont des armes autant que son couteau, enfin, de la même façon que, ah,
absolument,
que son
oui,
couteau.
Oui, oui.
C'est vraiment des objets.
Ou de séduire, ou alors de tuer. C'est...
Oui, il y a une scène dans la cave, quand il, avant même de toucher le ciment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il se retourne très violemment comme un animal, et c'est seulement son regard qui est filmé très fixe, comme ça, vraiment comme s'il avait sorti son couteau.
Oui, oui. Puis il y a tout l'aspect, la violence est très sexualisée aussi. Puisque le bruit du couteau, à un moment donné, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y a très longtemps que je ne l'ai pas revu, il a le couteau dans la poche et on entend le bruit du couteau qui s'arme, la lame sort, avant même qu'on voit le couteau. Et le couteau est dans la poche.
C'est un film qui fait parler de cinéma le spectateur. C'est un film qui suscite les réactions, la réflexion chez le spectateur.
Mais est-ce que vous avez remarqué aussi que certains spectateurs oublient l'histoire du film ?
On peut oublier ce que vous appelez l'histoire, c'est-à-dire la narration. Au premier degré, on oublie pour rester frappé de la beauté des images, frappé par certaines phrases sonores, par une certaine musique. Puis on oublie et quand on revoit le film, on dit mais oui, c'est bien ça. Tellement le film est riche. Donc on est à la première vision, on est peut-être séduit par un des multiples aspects de ce film au détriment des autres. On peut tout dire et tout trouver, c'est la Bible pour moi, tout y est. Je voudrais signaler qu'on parle du film, mais il ne faut pas omettre de parler du livre dont il est l'adaptation. Parce qu'à mon avis, c'est une des adaptations les plus fidèles à la lettre et à l'esprit. Puisque si vous lisez le livre, tout ce que le film vous montre est dans le livre. Et en plus, il y a des chapitres d'autres choses, des chapitres entiers qui n'ont pas été adaptés pour l'écran et qui s'y trouvent et qui sont remarquables. En lisant le livre, vous revoyez le film. Donc c'est un cas, je crois, assez rare d'adaptation où il n'y a pas eu trahison.
Cinéma, juillet 82. Interview de Robert Mitchum par Philippe Garnier et Claude Ventura.
Did you initiate the project or was it offered to you?
Charles Laughton.
Yeah. Did you know the book before?
Mm-hmm.
Yes. Did you know the man who wrote David Graff?
Yes.
Could you tell us a little bit about it?
What about him? Charles Laughton sent me the book, and I read it, and he said, "You must know," he said, "this is a desperate, unconditional shit." I said, "Present." He said, "Well, I'm not, you know." He said, "I'm making my living reading the Bible." Like I said, "I'm here."
Charles Laughton a amené sa vision des choses, et vous savez qu'avant de tourner le film, il s'était fait projeter tous les films de Griffiths. Et c'est un coup de chapeau à Griffiths. Pour Charles Laughton, disait-il, Griffiths est le plus grand réalisateur au monde. Et ce qu'il a fait, il n'y a aucune raison de ne pas le refaire, puisque c'est une recette de succès et un gage de succès assuré. Alors, l'hommage à Griffiths y est. On voit les ombres, on voit les ombres menaçantes, on voit même dans la forme, les fermetures, les ouvertures à iris. Tout y est, mais avec quelle beauté! Il y a des détails de fabrication du film qui sont extrêmement intéressants, pittoresques et curieux même. Par exemple, lorsque le personnage de Mitchum, le preacher, est à la recherche des enfants et que les enfants se sont réfugiés dans une espèce de grenier au-dessus, dans une ferme, et qu'au loin, on ne voit pas encore arriver le pasteur, mais on entend simplement ces quelques mots, enfin, puisqu'il a l'habitude de répéter des mots. Une petite ritournelle mystique, et on entend simplement leaning, leaning. Et alors on se dit ah, et les enfants, avant même de l'avoir vu, se dressent l'oreille, et on voit dans le lointain une petite silhouette qui arrive sur un cheval, qui se rapproche, et les enfants le contemplent fascinés. Et la réflexion du petit garçon, c'est mais il ne dort donc jamais. Parce qu'on est tout à fait dans le domaine du conte de fées. C'est l'ogre, c'est le petit poussé, c'est le croque-mitaine, c'est le cauchemar. Et alors un détail sur la fabrication, le personnage de Mitchum sur le cheval, ce n'est pas Mitchum et ce n'est pas un cheval, c'est un nain sur un poney. Parce qu'ils avaient un studio qui était trop petit et pour donner une impression de distance, ils n'avaient que 150 mètres de recul et ils ne pouvaient pas se permettre de mettre un personnage en grandeur nature, surtout vu la taille de Mitchum, sur un vrai cheval. Alors ils ont pris un petit poney et un nain et ça donne tout à fait l'illusion de la distance.
Oui, c'est extraordinaire.
Quand il arrive en ombre chinoise et qu'il se rapproche. Oui, c'est des petites choses
oui,
comme ça.
Oui, mais c'est très beau. Et la scène aussi où la femme est dans l'eau, dans la voiture.
Alors on voit
là
ses
aussi.
Cheveux qui se mêlent aux oui. algues. Alors là, ça a été extrêmement compliqué. Le photographe le raconte. C'est Stanley Cortez, qui est un grand chef opérateur. Il dit que ça a été une des scènes les plus compliquées à construire. Il a fallu choisir un immense réservoir et mettre le mannequin qui représente chez les Winters dans l'eau et l'habiller avec donc les vêtements et trouver une voiture d'époque, l'installer dedans et combiner des mouvements de caméra avec le mouvement du courant qui faisait onduler les algues et ses cheveux, et ça a été extrêmement complexe à construire et à fabriquer tout ça. Donc vous voyez que ça n'était pas un film facile à réaliser, surtout qu'il n'avait pas de gros moyens, et tout ça a été fait dans un studio pas très très important. Même la rivière est une fausse rivière quand les enfants sont dans la barque. Tout ça a été fabriqué entièrement en studio, ce qui donne cette impression d'expressionnisme là, avec les lumières très crues et les ombres très importantes.
Oui, c'est vraiment un film en noir et blanc.
Absolument, on ne peut pas le concevoir en couleur. C'est un des rares films dont le souvenir ne peut être qu'en noir et blanc. On ne peut pas imaginer avoir vu un film comme ça en couleur. C'est un film nocturne, mais en même temps, même il y a des scènes en plein air, assez gaies, on ne les voit pas en couleur. Oui. C'est très, très curieux.
Oui, vous dites que c'est un conte de fées. Ça peut être aussi un cauchemar qui finit bien, presque.
Bien sûr, ça peut être aussi un cauchemar. C'est aussi, comme je vous disais, un grand film social, puisque ça se passe à l'époque de la dépression, et on voit les malheureux enfants aller mendier une pomme de terre, parce qu'ils n'ont rien à manger, et les gens sont démunis aussi.
L'image qu'on a, c'est un noir rayonnant. C'est assez curieux. Sauf le début et la fin, et même il y a un moment où il y a la mère des deux enfants qui est... Je ne sais plus si elle est assassinée, ou en tout cas, elle se noie.
Elle est assassinée et il la jette dans le fleuve.
Et bon, il y a une image.
Avec ses cheveux.
Oui, avec ses cheveux, comme ça, une espèce de rondine, comme ça, dans le fleuve. Mais même ça, c'est noir. C'est noir, mais clair. Dire que ça atteint, à mon avis, quelque chose de complètement fondamental. Je crois que quand on est dans l'art, ça c'est une idée encore, bon, je sais pas, qui est sans doute partagée par beaucoup de gens qui sont dans la création, dans l'écriture, ou dans... Je crois que quand on est dans la création, on atteint un noir, et un noir qui est lumineux. C'est-à-dire, au tout début de la Bible, il y a une chose moi qui me fascine complètement, c'est le moment qui est avant la création, où la ténèbre, parce qu'on appelle ça la ténèbre, contient la lumière. Après, Dieu sépare les deux choses. Il y a donc dans la ténèbre, en même temps, de la lumière. Et je crois que quand on est dans la création, quand on cherche quelque chose très profondément, quand on va loin dans les choses, on retrouve cette espèce de chose d'avant la création qui est un mélange de lumière et de ténèbres. Et je crois qu'il y a ça dans le film.
Question of wanting or not wanting. You're no spring chicken. You're a grown woman with two little youngins. It's a man you need in the house, Will Harper.
Le coup de génie comme ça de l'automne, c'est d'être arrivé à construire un monde qui, vu à travers le regard des enfants, soit malgré tout un monde qui s'adresse profondément aux adultes.
Raymond Bellour.
Quand j'ai vu le film, j'ai repensé à The Wizard of Oz, hein, le magicien d'Oz, qui est un film qui, lui, s'adresse plus directement aux enfants, plus qu'il n'est vu à travers le regard des enfants. Je crois que c'est un des rares films américains qui soit construit, en fait, un peu comme un mythe, mais pas comme un mythe innocent. Si on prend des vieux films de Ford et tout, ils sont construits comme des mythes innocents, directs, disons des œuvres de romanesque avec une qualité mythique. Ici, on a un film qui est construit comme un mythe, parce que c'est comme s'il abstrayait la substance mythique du cinéma américain pour la raconter, pour la structurer en la racontant, et que ce faisant, ils peuvent le faire qu'à partir d'une histoire d'enfant. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point le phénomène de raconter est lui-même tellement important à l'intérieur du film. Hein. C'est toujours le problème de raconter à nouveau une histoire. Toute la fin avec le personnage de Lian Gish qui est essentiellement, enfin c'est une mère bien évidemment, mais c'est une mère en tant que mère raconteuse qui raconte des histoires, qui raconte quelle histoire ? Bien sûr la Bible, parce que le film se situe dans ce contexte extrêmement religieux. Et on a l'impression que tout est placé, la musique, les chansons, etc., sur la capacité à la fois de faire croire au cinéma en racontant des histoires et regarder quels seraient les moyens pour le faire. Et il y a comme ça au moins 3 ou 4 genres du cinéma américain qui semblent repris dans La Nuit des Chasseurs. Bon, le fantastique, bien évidemment, à travers ce côté très contrasté, très inquiétant et tout. Le western, même à certains moments, quand on voit arriver Mitchum sur son cheval avec la musique, à un moment donné, ça fait vraiment plein de western. Le film noir, bien évidemment, c'est un film qui, du point de vue de l'éclairage, du cadrage, est presque un jugement sur le film noir, sur la façon dont le film noir travaille, le dédoublement des ombres, la lumière, les projections lumineuses et tout. Et c'est curieux que ça soit à travers tous ces genres, comme ça, recapturés, encapsulés presque dans cette histoire d'enfant, que le film arrive à prendre presque une qualité d'aplat. Il y a un certain nombre de plans qui sont comme des plans de lanterne magique.
Where's the money hid?
I don't know.
She thinks that money's at the bottom of the river. But you and me, we know better, don't we, little lad?
I don't know nothing.
Well, never mind, boy. Summer's young yet. Pearl, come here. I'll tell you a secret.
Yes?
I knowed your daddy. And you know what your daddy told me? He said, you tell my little girl, Pearl, that there's to be no secrets between her and you.
Yes?
All right, now it's your turn.
What secret shall I tell?
What's your name?
You're just fooling. My name's Pearl.
Where's the money hid?
Pearl, you swore you wouldn't tell. You swore. You hit Daddy with a hairbrush.
Oh. Now, you see, we just can't have anything to do with John. You and me are going down to the parlor, Pearl.
John pensa, Monsieur Powell sait. Il sait que je sais où l'argent est caché. Il l'a toujours su. Et c'est pourquoi il a dit à maman cette blague, que pas lui aurait dit que l'argent était dans le fleuve. C'est ainsi qu'il peut me réduire entièrement à sa merci, faire de moi ce qu'il veut. J'ai peur de Monsieur Powell. J'ai peur de lui, plus que j'ai jamais eu peur des ombres du tonnerre. Ou que lorsqu'on regarde à travers une petite bulle du verre de la fenêtre dans le salon en haut, et que tout l'extérieur s'allonge et se contorsionne en s'amincissant.
Ce trésor, ce secret qu'ils ont caché dans la poupée, c'est en même temps un secret absurde parce qu'il ne sera jamais utilisé. C'est plus la valeur du secret que la valeur de l'argent qui est contenu, qui compte.
C'est un secret que lui a confié son père avant de mourir et qu'il détient. Et il a la charge de le cacher, de le dissimuler, de n'en parler à personne. Or, quelqu'un arrive et veut ce secret, veut se l'approprier, et l'enfant ne peut pas le dire. Il ne peut pas.
Anybody there? Anybody here?
Good evening, John. Had a little talk with your mother tonight, John. And your mother decided it might be best for me to let you know the news. Your mother told me she wanted me to be a daddy to you and your sister. We're going to get married, boy. Did you hear what I said, boy?
Hmm?
Married. We're going to Sisterville tomorrow. And when we get back...
You ain't my dad. You'll never be my dad.
When we get back, we're all going to be friends. And share our fortunes together, John.
You think you can make me tell? But I won't! I won't! I won't!
En tout lieu, d'une façon ou d'une autre, Prêcheur s'arrangeait toujours pour trouver John tout seul à la maison après le dîner. En ce moment, il se tenait à côté de lui, près de la porte de la cave. Et comme Prêcheur était sur sa route, il était impossible de gagner le vestibule et les marches afin de monter se coucher. Willa était parti au débarcadère de Cressap pour rendre visite après dîner à Issei et à Walt. Pearl continuait à jouer à la maman avec sa poupée sous la tonnelle. John pensa, et même, elle a changé maintenant, ma mère. Si je vais lui dire à elle qu'il me pose toujours la même question, elle dit que je mens, que c'est un homme de Dieu. que j'invente parce que je le déteste. Et parce que je suis souillé par le péché, et parce que je cherche à la tourner contre lui. Prêcheur lut ses pensées. Ta mère dit que tu bavardes à mon sujet, mon garçon. Elle dit que tu lui racontes que je t'ai demandé où était caché cet argent. N'est-ce pas, mon garçon? Oui, oui. Ce n'était pas très gentil de ta part, John. Avoue-le, mon garçon. Ça n'a pas d'importance, murmura le garçon. Non, c'est vrai, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il s'agit de ta parole contre la mienne. Et c'est moi qu'elle croit. Oui, pensa-t-il. Parce que tu l'as rendue folle.
Hey, you slimy snag, tooth-faced stealing so-and-so. Amen.
You have all sinned. Which one of you can say, as I can say, that you drove a good man to murder because I kept a hound in him for perfume and clothes and face paint. And he slew two human beings. And he come to me and he said, take this money and buy yourself the clothes and the paint. Yes, but brethren, oh, that's where the Lord stepped in. He said the Lord to that man, you take that money and you throw it in the river.
In the river!
In the river!
Pour tout dire, La Nuit du Chasseur, c'est un révélateur. Chacun y trouve des mérites cachés, y trouve peut-être des choses qui n'y sont pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, chacun a envie d'en parler et envie de dire des choses du film et se laisse aller à... Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est très important, c'est très important. Et c'est rarissime au cinéma de trouver des exemples de ce genre. Pour moi, c'est le cinéma. Ce film représente le cinéma. Tout le cinéma est contenu dans ce film. Tout ce que j'aime, tout ce que nous aimons au cinéma se trouve dans ce film. Forcément, ne pas aimer ce film, c'est ne pas aimer le cinéma. Moi, par exemple, tout ce qui m'a guidé dans le cinéma, c'est ma croyance aux fées. Et je m'explique. Aux fées, F-H-E. Fantastique, humour, érotisme. Ce sont les trois mamelles qui m'ont nourri au cinéma. Or, je trouve ces trois éléments combinés à des degrés divers dans ce film. Je les trouverai dans d'autres films peut-être. Donc je me satisfais totalement de ce film.
Oui, il y a aussi de l'humour dans la façon de montrer la peur.
Mais même Mitchum fait preuve d'humour par moments. Et il y a pas mal d'humour également dans la façon dont les meurtres sont représentés, dans l'évocation des meurtres. Quand on le voit installé dans cette fameuse boîte de striptease où il y a une fille qui commence à se déshabiller et que son couteau jaillit de sa poche. Ouais. Bon.
Et l'érotisme, oui, c'est un film en même temps un peu contre les femmes, non ?
Ah, c'est un film totalement misogyne, j'ai l'impression. Enfin, ça, c'est mon point de vue, dans la mesure où, quand on connaît Charles Laughton, lui-même était plutôt misogyne. Il n'y a qu'à lire les souvenirs de sa femme, Elsa Lanchester, qui vient de disparaître maintenant. Je crois qu'elle en parle suffisamment. Et que la façon dont la petite fille est malmenée, elle-même, je crois que les femmes ne trouvent pas grâce à ses yeux.
Il y a une scène très violente, justement, où la femme entre dans la chambre en petite chemise de nuit et qu'il lui demande de se regarder dans le miroir.
Oui, absolument. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. Et aussi, lorsque Mitchum s'adresse à la petite fille et l'injurie, et la traite d'une façon horrible, horrible.
Oui, il lui dit « je vais t'arracher les mains ».
Oui, c'est terrible, ça, c'est terrible. Par contre, le petit garçon est présenté d'une façon, je pense, je vais dire pas normale, mais enfin habituelle dans ce genre de situation. Non, je crois qu'effectivement, la femme n'est pas gâtée.
En même temps, elle est séduite par lui. Toutes les femmes dans le film sont séduites, même la petite fille.
Il suffit d'une belle parole pour se retrouver séduite. Il n'y a qu'à voir chez les Winters qui, lorsqu'on lui propose le mariage, immédiatement font.
Et jusqu'au dernier moment, elle ne veut pas croire d'ailleurs qu'il a épousé seulement pour l'argent.
Bien sûr. Et aucune des femmes n'a voulu le croire.
Mais elle est hypnotisée aussi par lui, là, cet effet, non ?
Bah, le mal est fascinant. C'est le mal qui est fascinant. Et le mal ne serait pas fascinant s'il n'était pas habillé de beaux atours et d'une apparence séduisante. Si le mal n'était pas séduisant, personne ne succomberait au mal.
Amen.
Are you through praying?
I'm through, Harry.
You were listening outside the parlor window.
It ain't in the river, is it, Harry?
Answer me.
Ben never told you he threw it in the river, did he? He made you marry me so you could show me the way and the life and the salvation of my soul. Ain't that so, Harry? So you might say that it was the money that brung us together. The rest of it don't matter.
Mon père, il a dit garder le secret et en fait c'est à cause de lui que tout ça s'est passé. Donc c'est comme si c'était lui qui avait tué sa femme, c'est comme si c'était lui qui avait entraîné ses enfants sur le fleuve, etc. Finalement, il aurait mieux fait de leur donner l'argent et ne pas dire de garder le secret parce que... Mais de toute façon, s'il avait pas dit garder le secret, il n'y aurait pas eu de film.
Safe and secure from all alarm, leaning. Leaning, leaning on the everlasting arms. Children, children.
Vous dites aussi que c'est un film à suspense. C'est vrai qu'il y a de grands moments comme ça de suspense dans la cave. Ou...
De suspense, d'angoisse. Les enfants se sont réfugiés parce que l'homme en noir, le pasteur maudit Robert Mitchum, les poursuit de son épée vengeresse. Et ils se sont réfugiés dans la cave de la maison. Et il appelle les enfants. Et il les appelle d'une façon avec qui m'est restée encore dans l'oreille quand il dit « Children ». Et les enfants sont terrifiés, ils sont logés dans le fin fond de la cave sous des rayonnages des pots de confiture. Et à ce moment-là, la porte de la cave s'ouvre et le pasteur descend pour les rejoindre. Mais arrive Mrs. Spoon qui apporte des nourritures, des gâteries pour les enfants. Et le pasteur, on l'entend d'ailleurs qui dit « Mrs. Spoon, well, 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 Mrs. Spoon ». Et à regret, il abandonne les enfants, il remonte l'escalier et il va à la rencontre de Mrs. Spoon.
I'm hungry.
Sure. And there's fried chicken, sweet potatoes, cornbread, and apple cumber.
Can I have my supper, please?
Naturally.
Can I have milk, too?
Mm-hmm. But first we'll have a little talk about our secrets.
No.
Then why not, pray tell?
Because John said I must.
Never mind what John said. John's a meddler. Now stop that sniveling. Look here. You know what that is? I want to see something cute. Now looky.
Et à ce moment-là, il sort un couteau et il dit à la petite fille, si ton frère ne me dit pas où se trouve l'argent, je le tue, avec mon couteau, je le tue.
You made me lose my temper. I'm sorry. I'm real sorry. Now just tell me, where is it hid, honey?
I'll tell.
I thought I told you to keep your mouth shut.
It ain't fair to make Pearl tell when she swore she wouldn't. I'll tell.
Well, I declare. Sometimes I think poor old John might make it to heaven yet.
Alors, le garçon dit, l'argent, il est là, il est enterré dans la cave.
It'll go hard if I find you're lying, boy.
I'm not lying. Go look for yourself.
All right. Go ahead of me, the both of you, down those stairs.
Alors, où, gamin? Mais prends garde, pas d'histoire. Je ne puis supporter les menteurs. Là-bas! et John désigna un point. Et l'ombre le désigna aussi, au milieu des rangées étincelantes de peaux luisants avec éclat sur les planches, là où se trouvaient les provisions d'hiver des années écoulées. Où ? Juste là-bas, derrière cette grande planche haute, derrière cette jarre de pierre, sous la pierre, dans la terre.
This is concrete.
John made a sin. John told a lie.
Le pasteur lève les bras, dit mais dans la cave, mais il n'y a que du ciment, il n'est pas là, puisqu'il n'y a que du ciment, it's only concrete.
Before mine eyes. Speak, boy, where's it here? Speak. Speak or I'll cut your throat and leave you to drip like a hog hung up in butchering time.
Pearl, shut up, Pearl, you swore.
You could save him, little bird.
It's not my doll. It's not my doll.
The doll. Why, sure. Last place anybody think to look.
Et profitant d'un mouvement d'inattention, le gamin enlève une étagère, renverse une étagère et les bocaux lui tombent dessus et l'assomment. Ils en profitent pour déguerpir et remonter l'escalier avec à leur trousse le pasteur qui, avec ses mains, essaie de les attraper et finalement il referme la porte difficilement, lui coinçant les mains dans la porte. Et on entend le pasteur grogner comme un démon, pousser des hurlements de bêtes, terrifiantes. Et les enfants s'éloignent dans la nuit.
Oui, là aussi, il les rate de très peu. C'est en ça que le film n'est pas réaliste, finalement.
Pas du tout, parce que c'est comme dans un cauchemar. Le personnage n'en finit plus de se rapprocher, ils n'en finissent plus d'avancer. Ils peinent terriblement pour avancer. Et derrière eux, on sent il y a le souffle de la bête qui est prêt de les attraper. Et puis, ils avancent, lui avance. Tout le monde a l'air de faire du surplace. Ils gagnent péniblement une petite barque qui se trouve arrimée au bord de l'eau et il s'installe dans la barque, mais lui est déjà là, et il marche, il se précipite dans les eaux et avec ses mains il essaie de retenir la barque et d'agripper les enfants pour les attirer, mais ils parviennent à s'éloigner malgré tout et ils partent à la dérive au fil de l'eau.
Relie, je crois, ce film, La Nuit Chasseur, à l'univers de Mozart. À mon avis, c'est un mélange d'angélisme et de démonisme. Il y a ça chez Mozart, ce qui fait ce côté noir et nuit en même temps. C'est quelqu'un qui a les deux aspects en lui. C'est-à-dire que quand on dit la grâce de Mozart, c'est vrai qu'elle est là, mais il y a aussi le reste. C'est d'un artiste totalement complet, à un point d'une complexité absolument invraisemblable. Et ce qui ressort, effectivement, c'est cette chose absolument incroyable qui est une espèce de grâce. Mais il y a un démonisme formidable, parce qu'il y a tous ces personnages, ils sont noirs, il y a une espèce de violence, il y a le couteau, il y a le faux prêtre, il y a toutes sortes de choses qui sont vraiment de l'ordre du noir et de la violence et du mal. Et en même temps, cette espèce de presque de naïveté, de choses, mais c'est la merveille totale, c'est la bonté pure. Et il y a ça chez Mozart aussi, il y a ça bon dans tous les opéras, dans la Flûte enchantée, où il y a cette espèce de figure du prêtre qui vient du noir, qui a une voix d'ailleurs assez noire. Et en même temps, c'est la bonté universelle, c'est le bien, c'est le côté lumineux qui contient aussi le noir.
Thank you.
film après cette poursuite du criminel, quand on dirait qu'elle a cessé. La barque des enfants a échoué sur la rive du fleuve. Ils dorment. Et comme toujours dans le cinéma, une vieille dame passe par là, qui s'occupe en général de charité, de recueillir des chats, des chiens, des enfants perdus. Elle recueillera également ses enfants poursuivis. On respire enfin. On est tranquille sur leur sort. Et puis, c'est alors que pour moi, la nuit du chasseur commence, le véritable film. Il dure 10 minutes. Il atteint une ampleur que le cinéma américain n'a jamais atteinte, quant à moi.
Good morning, ladies.
I do.
Why, you're Miss Cooper, I take it.
It's about that John and that Pearl.
Oh, them poor little lambs. To think I never hope to see them again in this world. Oh, dear madam, if you was to know what a crown of thorns I have borne in my search for them strayed chicks.
Et c'est un film aussi sur la voix.
Oui, et la voix, non seulement de Mitchum, est très importante, mais toutes les voix choisies par Charles Laughton pour son film sont extrêmement importantes. Il ne faut pas oublier que Laughton avait une voix extrêmement caractéristique pour les anglo-saxons. Il se déplaçait, il faisait des lectures, il faisait des conférences, il lisait Shakespeare, il lisait la Bible aussi. Et la voix était très importante, donc il a choisi les personnages pour leur voix. La voix de Mitchum, qui est profonde, est extrêmement impressionnante. La voix des enfants fait contraste. La voix de Shelley Winters aussi est très importante. Ils ont tous eu un timbre de voix extrêmement différent. Et tout ça mêlé avec des sons, avec une musique, fait une musique propre au film. Même si on ne comprend pas vraiment les paroles, on est subjugué, fasciné par le timbre de la voix de tous les personnages qui s'orchestrent comme une espèce de symphonie macabre, terrifiante. Et même si on ne comprend pas ce que disent les gens, il faut voir le film en version originale. Et je tiens à souligner aussi qu'il y a eu à un certain moment une version française qui a été établie du film et qui heureusement n'a pratiquement jamais été montrée. Et curiosité également, savez-vous qui était la voix française choisie pour faire Lillian Gish? Lillian Gish, qui est une dame maintenant qui a 90 ans. Bien, c'est une autre dame qui a également 90 ans maintenant, c'est Madame Denise Gray. Tous les personnages s'expriment par leur voix, représente leur moi profond, si on peut dire. Il y a la voix terrible, il y a la voix rassurante, il y a la voix inquiète, il y a la voix enfantine. Et c'est très important de le souligner, je crois.
Oui, et puis la voix aussi du prêche.
Bien sûr, la voix, les sonorités du chant. Leaning, leaning, safe and secure from all alarm. Je crois que c'est ça.
C'est
hein.
Ça, oui. Et c'est un chant, en fait, menaçant, toujours, et en même temps très doux.
Et qui est censé apaiser, c'est un chant biblique.
Mais dans le film, il a une fonction menaçante.
Et mis dans la bouche de quelqu'un de menaçant. Quelqu'un qui se veut apaisant et qui, en fait, est une menace lui-même.
Et quand ce chant est repris par Lillian Gish, à la fin, il devient presque apaisant pour lui.
Absolument, parce qu'il le neutralise. Il est là pour neutraliser le mal. Et à un moment, ils sont même en duo. Ils chantent ensemble. Et elle chante plus fort.
Ouais. Et là, peut-être que c'est la première fois qu'il entend ce chant par une femme et qu'il s'adoucit. Et
il se cache, il se dissimule, il fuit, il ne cherche plus à masquer, à se faire passer pour quelqu'un de sympathique, quelqu'un de gentil, mais c'est le mal qui montre son vrai visage. Et là, il se met à grogner et à invectiver et à cracher des injures et des femmes de Babylone, prostituées.
Jehovah will guide my hand in vengeance. You whores of Babylon, I'll be back when it's dark. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
Et voici que survient le film dans le film. Le deuxième film de La Nuit du Chasseur, sorte de confluence. Cette nuit-là, au terme de la poursuite, ces gens se rassemblent. La vieille dame à la fois bonne et sévère, folle et efficace, cette petite enfance immaculée, cette donnée immuable de l'impunité, et ce père tueur d'enfants, ce mangeur de chair fraîche, cette charogne vide comme un sac vide. C'est à cet endroit du film que se situe ce que je pourrais appeler le miracle de la nuit du chasseur. Il est donc là, le criminel de cinéma, beau et rieur, sur son cheval noir, face au corps exposé des enfants, derrière les ouvertures de la maison, comme quelqu'un qui a faim et qui regarde la nourriture, qui a froid et qui regarde le feu. Il y a bien le fusil pittoresque de la vieille dame, mais il est là comme un décor, un épouvantail, et ne peut pas servir. La vieille dame étant classée dans le bien et dans l'amour de la légende américaine, elle ne peut pas tuer. Alors elle invente. La vieille dame invente donc de chanter pour passer le temps que dure la menace de mort, cet écoulement de la nuit. Nuit propice au meurtre qui s'écoule comme le fleuve. Est là. À mesure que le chant se déroule, le criminel se transforme. Une sorte de grâce à son tour, cette grâce étant le lieu commun de la vieille dame, des enfants, le gagne, remonte en lui, chemine en lui à travers sa noirceur, à travers sa mort, disons comme l'enfance à travers la vie. Et tout à coup, sa volonté de tuer apparaît naïve à côté de cette immensité, l'enfance.
Je pourrais peut-être garder un secret pareil, mais s'il y a quelqu'un qui me poursuit et tout... Puis c'est surtout le fait que mon père me dise de le répéter à personne, même pas à ma mère. Et alors, en même temps, je pourrais pas désobéir à mon père. Et puis en même temps, il faudrait que je le dise à ma mère. Donc, je préfère pas m'imaginer que je suis là, que je suis... dans cette position, parce que...
C'est une très belle idée, le secret, parce qu'effectivement, ça arrive à marquer par un truc de scénario, parce que c'est jamais qu'un truc de scénario, le secret, la coupure entre le monde des adultes et le monde des enfants. Hein. Comme s'il y avait quelque chose qui, effectivement, n'appartenait qu'aux enfants et qui n'était pas transmissible aux adultes, sauf à la seule adulte qui le demande pas parce qu'elle s'est mise complètement en position d'épouser complètement la cause des enfants. J'ai au point que la fin du film est d'ailleurs est presque étrange, enfin, sur un plan comme ça, de contenu. Je veux dire, c'est une espèce de louange, adressée aux enfants en tant qu'enfants. Ça finit presque comme un film de propagande, comme les films de propagande américains sur la guerre ou ceci ou cela. Et là, c'est sur l'enfance directement en tant que telle. Et ça, c'est très, très curieux, je trouve.
Oui, il y a un message.
Oui, il y a un message qui est: sauver l'enfance.
Can we give you your Christmas presents now?
Shoot, you don't mean to say you got me a present.
Mais est-ce que Robert Mitchum n'est pas un peu l'envers du père qui meurt à la fin, ou son double, plutôt?
Ah ben si, puisque les deux scènes sont... La scène de l'arrestation du père par la police et la scène de l'arrestation de Mitchum à la fin, ils sont strictement filmés de la même façon, avec le même type de plan, le même type de comportement des flics, et surtout, ce qui les rend encore plus communes, la même réaction de John, qui, alors que cet homme est devenu l'homme qu'il est et qu'il effraie le plus au monde... John, tout d'un coup, fait comme si c'était à nouveau son père arrêté. Il y a une sorte d'espèce de scène de catharsis, là. John revient et dit non, non, non. Exactement comme il avait dit non, 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 au moment de l'arrestation de son père. Et par là, alors, si on se mettait à devenir un peu plus psychologisant du point de vue de l'interprétation, on pourrait dire qu'à nouveau, le fait qu'il prenne à ce point-là la place du père et que Liliane Gish, dans une autre version, disons, se mette en place finale de la mère, que ça développe encore les virtualités toujours contenues, mais effrayantes, inconscientes et tout, de ce qu'est une famille. Enfin, je veux dire, c'est malgré tout, même si c'est sur une famille, à partir d'une famille détruite, c'est quand même des fantasmes de famille dont il est question. Simplement, ils sont replacés, disons, dans un contexte plus large que celui de la psychologisation auquel ils auraient pu être réduits si on était resté dans une famille trop réaliste, enfin trop représentative. Et ça, par exemple, c'est une chose que le film ne dit pas, enfin, ou plutôt que le film dit, mais dit par ce montage et par ses équivalences, mais qu'il ne dit pas parce qu'il n'en fait pas du tout une donnée explicite du scénario.
Donc c'est un film où le temps, sinon n'existe pas, mais se distend dans quelque chose d'autre, qui est un domaine du rêve ou de l'onirisme. Tout ce déroulement qui pourrait appartenir au naturalisme ou à une espèce de réalisme disparaît au profit d'une espèce de logique du rêve qui fait que le temps disparaît complètement. Et c'était une des choses aussi très étonnantes dans ce film, parce que quand même on sait très bien que le cinéma, comme le roman, c'est un art du temps, enfin, ça déroule dans le temps. Et ça, c'est une des grosses réussites du film, de l'abolir.
Oui, on ne sait pas d'ailleurs combien de temps ils mettent pour descendre le fleuve, combien de jours, combien de nuits, non, c'est très... on ne sait pas.
Ils s'endorment d'ailleurs. Ils s'endorment, donc le temps n'existe plus, c'est un temps de... C'est un temps du rêve, hein, complètement. Lord save little children. You'd think the world would be ashamed to name such a day as Christmas for one of them and then go on in the same old way. My soul is humble when I see the way little ones accept their lot. Lord, save little children. The wind blows and the rains are cold, yet they abide.
Et à la fin du film, d'ailleurs, la femme qui les a sauvés offre au petit garçon une montre. Et elle dit, comme ça, tu n'auras plus de montre cassée.
Ah oui.
Et c'est sa première... On sort du rêve et...
On sort du rêve et... This watch is the nicest watch I ever had. Well, a fella just can't go round with run-down, busted watches. They abide and they endure.
Donc c'est le meilleur film, on peut dire que c'est le meilleur film de Mitchum, mais le meilleur film qui ait jamais tourné Charles Laughton, puisqu'il n'en a pas fait d'autres.
Comment ça se fait qu'il n'en ait pas fait d'autres?
Parce qu'il est mort après, mais il préparait un second film qu'il devait tourner d'après Norman Mailer, qui s'appelait Les Nus et les Morts. Et malheureusement, il n'a pas pu venir à bout de ce projet, et c'est Raoul Walsh, quelques années plus tard, en 58, qui l'a réalisé. Hush, little one.
La nuit du chasseur, une émission de Colette Fellous. Avec Jean-Claude Romer, conseiller cinématographique et rédacteur des fiches de Monsieur Cinéma, Michel Nuritzani, critique d'art et directeur de collection chez Flammarion, André Labarthe, collaborateur à Cinéma Cinéma, Raymond Bellour, écrivain, Laurence Gavron, critique, et la participation de Marianne. Musique du film composée par Walter Schumann. Texte, La nuit du chasseur, roman de Davis Grubb, publié aux éditions Bourgois, lu par Yves Fabrice. Et La nuit du chasseur de Marguerite Duras, lu par Jacqueline Taous, et paru dans Les yeux verts, numéro spécial des Cahiers du cinéma, rédigé par Marguerite Duras. Extrait de l'interview de Robert Mitchum par Philippe Garnier et Claude Ventura pour Cinéma Cinéma de juillet 82. Mixage, Daniel Bizien, Jean Fèvre et Monique Retourné. Réalisation, Christine Berlamont.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 janvier 1987. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Time to say good night, good night, sleep time. Now the sun turns out his light, good night, sleep time. Everybody, everywhere.